Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM, bienvenue dans notre émission Entre Chiens et Loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Et ce soir, une émission assez exceptionnelle puisque elle se déroule à Enghien, dans le Centre des Arts, où va être lancée la saison 2022-2023 et qui commence par un voleur. Le voleur, c'est Prométhée, qui donne le feu aux hommes. Alors, avec moi, j'ai les commissaires d'une très belle exposition, très riche, dont on va parler dans un instant. J'aimerais, avant qu'on rencontre les artistes, il va y avoir beaucoup de rencontres ce soir, des artistes, des plasticiens, des vidéastes, des créateurs, des musiciens, et puis bien sûr Emmanuel Cuisinier qui nous accompagne, qui est commissaire, co-commissaire de l'exposition qui se déroule actuellement au Centre des Arts, Prométhée le jour d'après. On peut dire que Prométhée c'est un peu lui, mais il est accompagné par un très beau jour d'après qui s'appelle Stéphanie Pécourt et qui est également co-commissaire, qui est attaché, si je peux vous dire, au Centre Wallonie Bruxelles à Paris. Directrice du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, situé tout près du Centre Georges Pompidou. On est en plein dans l'art contemporain. Revenons à l'Antiquité, cher Emmanuel. Est-ce qu'on peut raconter pour nos auditeurs en quelques mots ce qu'est ce vol de Prométhée? Qu'est-ce que c'est que ce mythe de Prométhée qui donne le titre à cette très belle exposition et très riche exposition?
Prométhée est un titan qui aurait façonné l'être humain et qui, lors de la bataille avec les dieux de l'Olympe, en fait, il resta avec son frère en fait assez calme et les dieux de l'Olympe leur laissèrent en fait la vie sauve. Sauf que voilà, les dieux Zeus n'avait de cesse finalement de titiller la création de Prométhée et Prométhée décida finalement de voler le feu à Zeus et de le ramener finalement à sa création, les hommes, les êtres humains. Et donc l'idée, c'est que cette promesse finalement du feu qu'ils ont connu très peu de temps leur a été enlevée parce que Zeus n'a pas été dupe très très longtemps. Et donc il y a à la fois d'un côté cette promesse qui n'a pas pu être tenue très longtemps, mais en même temps qui a permis de connaître finalement, de goûter à une sorte de connaissance, de technique, et en fait la représentation aussi de l'art. Et de l'autre côté, la punition de Prométhée qui, comme on le sait en général souvent, donc a été attaché à une montagne, à un rocher, et qui s'est fait chaque jour de sa vie, donc pendant 30 000 ans, dévorer le foie par un aigle.
C'est terrible d'avoir du progrès qui vous transforme en... qui vous punit, au fond, de donner. C'est un don pour lequel ce brave Prométhée est puni. Mais on a Stéphanie Pécourt qui va nous dire ce que signifie pour elle, dans le cadre de cette exposition, le jour d'après. Prométhée, le jour d'après. Qu'est-ce que ça signifie, Stéphanie?
C'est vraiment effectivement une mise au jour de la figure du titan, qui est celle, comme le dit Emmanuel, effectivement de Prométhée. Et c'est clairement en référence à un contexte aussi qui est le nôtre, qui est celui justement des dangers générés, entre guillemets, par notre espèce. La question de la manipulation des technologies, la question de la manipulation et des prouesses effectivement technologiques qui nous ont amenés, comme on l'a encore effectivement éprouvé tout récemment, à aussi des dangers écologiques, des dangers environnementaux. Donc l'enjeu, le jour d'après, c'était toute cette ambiguïté, cette fascinante et cette exponentielle découverte de nouvelles mesures, de nouveaux moyens, mais également qui pose l'enjeu à un moment donné de la maîtrise, de l'utilisation et de la finalité également des moyens qu'on déploie. Donc comment utiliser ce feu et à quelle finalité, avec quelle vision, le jour d'après, quel est ce jour d'après qu'on veut profiler, auquel on aspire et à partir de quels moyens on le modélise.
Autrement dit, on est dans la problématique du progrès. Est-ce que le progrès nous entraîne vers un meilleur, vers un mieux, vers un meilleur être, ou bien est-ce qu'il a intrinsèquement des dangers au fond? Et est-ce que c'est bien ça que les artistes qui sont présents, il y en a beaucoup, vous allez nous parler des artistes et on va en rencontrer un certain nombre, c'est bien ça qu'ils essayent de nous faire entendre, comprendre, voir?
Je crois que justement, on l'oublie, le progrès n'a rien d'intrinsèquement ni de positif ni de négatif. La question, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi on l'utilise? L'envie, effectivement, au travers des pièces qui vous sont présentées, c'est notamment d'approcher des univers artistiques qui utilisent, pour certains, effectivement, des moyens technologiques, des procédés technologiques, à d'autres fins, entre guillemets, que celles qu'on destinerait. Je crois que les artistes ont cette capacité assez incroyable et inédite de repotentialiser une série, effectivement, de technologies. La question, par exemple, de la bio-ingénierie, de la géo-ingénierie ou, par exemple, de la manipulation génétique, elle est effectivement abordée de manière ironique par certains artistes. Donc, les artistes ont cette possibilité d'ouvrir des boîtes noires et de nous amener à réfléchir à des usages alternatifs, à comment, effectivement, à un moment donné, à partir de l'art, véritablement comme un moyen d'appréhender la réalité, on peut profiler une autre réalité, un autre monde possible.
Est-ce qu'il est possible, Emmanuel Cuisinier, de concilier à la fois art et technologie? C'est ce que vous faites, au fond, depuis 20 ans, ici, au Centre des Arts à Enghien. Mais je crois que cette exposition-là, précisément, Prométhée, le jour d'après, pose exactement ce paradoxe. Et puis peut-être cette dialectique entre progrès, art, technologie et être au monde.
Je crois qu'en fait, oui, il y a vraiment la question aussi de la poésie. Effectivement, c'est art et technologie, mais au-delà de l'aspect technique de la technologie, il y a aussi cette poésie dont est doté l'être humain et qu'il est capable, justement, comme une ressource ultime, finalement, de réinventer le jour d'après. Et ce jour d'après, finalement, quelles que soient ces boîtes noires dont parle Stéphanie, finalement, c'est l'histoire que chacun se raconte à partir d'un phénomène qui est cette légende, ce mythe. Et à partir de ce mythe-là, finalement, toutes les promesses du jour d'après, de ce renouveau, comment se réinventer, comment se réaffirmer et comment peut-être aussi pardonner, Prométhée et libérer 30 000 ans après. Et comment fait-il pour finalement poursuivre sa route et obtenir finalement ses propres outils et récupérer et retrouver sa propre identité. Et c'est aussi un des aspects de cette promesse qui est faite et de cette volonté de retourner vers peut-être une quiétude ou en tout cas la possibilité de se réapproprier soit sa propre perception du monde et son propre paysage.
En effet, c'est une invitation en fait à la fois dans le temps et dans un espace qui pour l'instant nous est peut-être un tout petit peu étranger, mais dans lequel on peut exister. Alors, vous avez invité un grand nombre d'artistes, il y en a combien? Et j'aimerais connaître comment s'est faite cette relation entre le Centre des Arts et le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, qui est dirigé, rappelons-le, par Stéphanie Pécourt. Stéphanie, comment s'est faite cette relation?
Eh bien, comme toute relation valable, dans le dialogue et dans l'échange. Donc, on a beaucoup échangé avec Emmanuel sur, effectivement, des artistes qui nous intéressaient respectivement, sur des projets, sur des éléments, effectivement, de réflexion et de manière très dialectique, par la façon qui est la nôtre à l'ère du web, par échange de mails. Emmanuel a rebondi, j'ai rebondi. De fil en aiguille, effectivement, s'est formalisé clairement cette sélection. C'est un peu plus de artistes. Vous l'avez vu, c'est aussi beaucoup d'artistes femmes. C'était important.
C'est important.
à fond. C'est un euphémisme. C'est important, qui plus est, dans un enjeu qui est justement celui d'une exposition numérique. Mais vous le soulignez tout à l'heure, l'envie c'était aussi d'avoir aussi bien des œuvres qui soient des œuvres qui intriquent des nouvelles technologies, mais également des œuvres non effectivement numériques. Le travail par exemple de Sarah Caillard, qui est celui effectivement de fantôme que vous découvrirez à l'ouverture de l'exposition, on est clairement sur un jeu de matière. Donc l'envie aussi, et elle était partagée, c'était d'aller vers des artistes en effet dont les travaux intègrent des nouvelles technologies, mais également des artistes qui posent des questions à l'endroit de ces technologies, mais d'une manière non justement numérique. Donc là, dans l'œuvre, dans l'exposition, vous avez une cohabitation à la fois d'œuvres numériques, non numériques, et un jeu de matière, un jeu également d'éléments. Vous arrivez dans l'exposition par une sorte d'immense totem qui est constitué de tourbes. Donc on est là dans quelque chose de très organique. Vous avez des œuvres qui sont constituées de béton, de matière effectivement, de stéréolithographie. Donc l'envie c'était voilà de retrouver le corps aussi dans ses métamorphoses, dans ses hybridités. Et tout a été choisi ensemble, tout a été co-validé. Ce qui est plutôt très sain.
Avec le co-commissaire Emmanuel Cuisinier, à qui j'aimerais demander la part d'esthétique, du choix esthétique qu'il y a derrière cet ensemble d'œuvres, qui se traduit d'ailleurs remarquablement dans le catalogue de l'exposition, hein, qui est vraiment d'une grande richesse et que je crois qu'on aura vraiment plaisir à feuilleter un long moment. Mais la part esthétique, la part sensible, au fond, que ces œuvres auxquelles on est invité à voir, à entendre, il y a de la vidéo, un voyage au Japon, il y a ces formes de corps qui sont très, très riches, il y a ces traits de lumière, etc. Emmanuel Cuisinier, quel a été pour vous aujourd'hui le sens esthétique? Est-ce qu'on se trouve dans une histoire, je dirais, une histoire de l'art?
Une histoire de l'art forcément, mais une histoire tout court aussi, une narration. Et c'est vrai que Prométhée, c'était là pour le coup, il y a à la fois cette expertise que Stéphanie Pécourt a sur l'histoire de l'art, mais aussi sur la littérature et beaucoup de textes. Et c'est quelqu'un justement d'extrêmement littéraire. Et on a voulu cette épopée prométhéenne chapitrée. Et trois chapitres, en l'occurrence, que nous avons co-construits et qui chacun va générer...
On peut les citer ?
Prométhée, la question du mythe qui est une sorte de premier point de départ. L'idée ensuite peut-être de la malédiction en fait de Prométhée qui va sombrer et après ça justement suite à cette promesse du feu qui a été enlevée, l'idée de vouloir aller vers la démesure et essayer de prouver finalement comment nous-mêmes on était capable de devenir des êtres démiurges et se défaire finalement du modèle. Et pour parfaire justement le fait de se défaire du modèle, c'est l'idée du pardon et l'idée de pouvoir passer à autre chose et le jour d'après. Et donc l'idée c'est d'avoir cette narration et chaque narration, chaque chapitre, chaque étape est conçue autour de différentes esthétiques, bien sûr chaque artiste, mais c'est vrai qu'il y a malgré tout un fil rouge qui va se dérouler, qui va se tirer comme ça, et il va y avoir un rebond d'œuvre en œuvre, d'esthétique en esthétique, qui vont se répondre, et avec à chaque fois une singularité qui est toute celle finalement de chaque artiste invité ici.
Merveilleux, cette exposition se déroule jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 12 décembre au Centre des Arts à Enghien-les-Bains. Nous allons aller justement à la rencontre des artistes devant leurs œuvres, que vous aurez sans doute énormément de plaisir à venir voir ici à Enghien. Merci infiniment Emmanuel Cuisinier, merci beaucoup Stéphanie Pécourt.
Merci énormément à vous et merci encore Emmanuel de l'invitation et au CDA.
Et merci à vous tous de nous écouter et merci Stéphanie Pécourt.
Voilà, ben nous sommes entourés d'artistes maintenant Vous entendez un son qui vient vraiment d'ailleurs. On est un peu ailleurs. J'ai trois artistes avec moi. J'ai Mathieu Zurstrassen, j'ai Adrien Lucas et puis j'ai Alice Palot. Tous les trois qui exposent des œuvres tout à fait à la fois poétiques, un peu décalées. Enfin, décalées, non, elles sont, ce sont des gestes en tous les cas de création très très riche et très intéressante. Je vais commencer par Mathieu. Mathieu qui propose une œuvre qui s'intitule
Margaret.
Margaret, qui présentez-nous Margaret.
Alors Margaret est une œuvre critique sur ce qu'on appelle un peu maladroitement aujourd'hui l'intelligence artificielle.
Critique, c'est-à-dire?
Elle est destinée à soulever des questions chez le spectateur, à faire émerger un questionnement et à faire en sorte que le spectateur devienne un petit peu critique, même face à ce qu'il voit.
Alors, on voit, j'ai tenté de dire un peu ce qu'on voit. On voit une plante qui tourne pour l'instant sur un trépied lumineux. Il y a une bande
On appelle ça un matriciel LED qui permet simplement de faire défiler un texte lumineux.
Oui, et puis une très très belle lampe qui est en... Je ne sais pas, elle diffuse une lumière tout à fait peu habituelle, magnifique.
On appelle ça une lampe plasma et c'est assez vintage. C'est un objet qui existe depuis les années 80. Et voilà, c'était dans l'idée d'utiliser une technologie un petit peu désuète pour représenter un cerveau finalement, ou représenter ici ce qu'on appelle un neural network, le programme qui contrôle l'installation.
Donc Margaret, c'est une installation qui génère à la fois de la poésie, du langage.
On peut dire ça comme ça. Margaret, c'est donc un neural network, donc on va dire plus simplement un programme. Et ce programme, dans la fiction, se trouve un jour seul et décide de créer un compagnon. Et comment est-ce qu'un programme ou une machine crée un compagnon? Ça passe par peut-être une forme d'éducation. Et donc elle va chercher dans sa base de données toute une série de textes sur le sens de la vie, sur la liberté, sur de la méthode, des discours scientifiques. Et elle crée des questions et des réponses pour essayer d'éduquer la plante que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est une plante artificielle en plastique, et elle essaye de rendre cette plante vivante en l'éduquant. Et donc c'est une pièce qui parle de solitude, de la solitude éventuelle des machines, on ne sait pas. Quand on éteint son ordinateur, qu'est-ce qui se passe derrière? Qui parle, quand on parle d'intelligence artificielle, on essaie de se rapprocher de l'être humain. Et pourquoi est-ce que une machine ne pourrait pas éventuellement avoir aussi des défaillances? Enfin, on peut appeler ça défaillance, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais on peut parler de schizophrénie. Il y a qu'un seul ordinateur. Elle fait elle-même les questions et les réponses. Finalement, elle se parle à elle-même. Est-ce que c'est une forme de schizophrénie ou pas?
Moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est aller chercher dans les textes pour éduquer une plante artificielle. Éduquer, avant tout, c'est faire germer.
Et tout est ici, tristement, c'est un peu un jeu d'illusion, quoi, parce que. Finalement, l'artificialité ici, c'est l'électricité qui donne ces jeux de lumière, même s'ils sont un peu précis. C'est l'électricité qui fait tourner un moteur, qui la rend vivant. Mais est-ce que c'est ça qui la rend réellement vivant? C'est ça qui nous rapproche de l'être humain? Et le fond, c'est ne pas oublier l'être humain et. Je pense qu'on n'est pas prêt d'être remplacé finalement.
D'accord, donc parlons de sensibilité, d'intelligence, de poésie Et plutôt que d'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'il y a une petite réticence à employer ce mot.
Oui, je ne suis pas très... Je trouve ça très... je trouve que c'est un artifice et c'est un peu une illusion. Bon, ce sont des machines qui... n'oublions pas l'humain, n'oublions pas que dans chaque programme, et même un neural network assez complexe, il y a toujours un être humain qui décide du contenu qui est utilisé pour entraîner un neural network. Et c'est ça qui est primordial. Et on ne peut pas dire non, cette machine a fait ça. La responsabilité vient à celui qui est en amont et qui, jusqu'à présent, selon moi, est toujours un être humain.
Voilà, et j'ai devant moi un être humain plein et très, très généreux, en chair et en os. Mathieu Zurtrassen, merci beaucoup pour cette présentation. Margaret, vous êtes très, très. C'est un très beau dispositif. On va aller vers d'autres êtres humains. On va aller vers un être humain en chair et en os également. C'est Alice Palot qui présente une œuvre justement où il est question de germination et de perte de la germination possible. Est-ce que c'est bien ça? Comment s'intitule cette œuvre, Alice Palot?
Alors, cette série, elle s'intitule Oosphère. Et Oosphère, c'est le nom des gamètes femelles reproductrices chez les végétaux. Donc, cette œuvre, en fait, elle vient interroger la possibilité de refaire émerger l'univers végétal dans un univers où, possiblement, on perdrait, en fait, les traces de l'univers végétal.
Alors, on est dans 10 000 ans, il n'y a plus de traces de végétaux sur la Terre, c'est bien ça. On a perdu cette mémoire et cette génétique, mais vous avez créé un scénario, Alice, pour que tout ceci ne soit pas complètement désespérant ni désespéré.
Tout à fait. Alors, j'ai créé un scénario, mais aussi sur base de ce qui est fait aujourd'hui pour pouvoir prévoir ce scénario catastrophe. Donc, il s'agit de la banque de graines, par exemple de Svalbard, qui prévoit, en fait, de pouvoir reconstituer tout l'univers végétal grâce à la banque de graines. Et donc, ici, on peut apercevoir des expérimentations réalisées par ces êtres humains du futur pour pouvoir faire réémerger, justement, ces végétaux.
Si je comprends bien, il y a un endroit au monde dans le nord du Groenland, je crois, à Svalbard, un lieu où on conserve une sorte de banque des graines de tout le monde, de toute la biophysique, la biosphère.
Tout à fait. Et donc, en fait, on cryoconserve. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir congeler vraiment ces graines pour les conserver dans les meilleures conditions. Et donc, si on est dans un système, dans un état d'urgence, on peut potentiellement les décongeler et permettre de faire réémerger justement certaines espèces. Donc, c'est pour ça que dans la série, tout est extrêmement lisse, tout est extrêmement aseptisé et très froid pour rappeler justement cette cryoconservation.
Mais vous êtes une artiste ou bien vous une scientifique ?
Alors moi, je suis artiste. Maintenant, je travaille beaucoup avec des scientifiques aujourd'hui. Ça, c'est une série que j'ai réalisée avant, donc une série fictionnelle par rapport à ces scientifiques. Après, c'est vrai que moi-même, j'ai été conçue par insémination artificielle, ce qui a poussé aussi mon attrait pour la science-fiction quand je l'ai appris.
Mais vous n'êtes pas du tout fictive, vous êtes parfaitement en forme et tout à fait bien vivante autour de nous. Merci beaucoup, Alice Palot. Hein, c'est une œuvre très, très intense qui nous projette dans un très lointain avenir. Merci. Nous sommes maintenant en compagnie d'Adrien Lucas, qui est un artiste plasticien, qui est professeur également, qui a été professeur aux Beaux-Arts. Et cette œuvre devant laquelle je suis un peu pétrifié par sa beauté, je voudrais lui demander quel est son titre déjà, peut-être pour se repérer un peu.
Alors, l'œuvre s'appelle Lampe Ciel.
et de quoi il s'agit. Alors, si je précise un peu le dispositif, c'est une ligne droite éclairée de l'intérieur qui éclaire les murs autour de nous, mais avec une lumière très particulière. Je crois qu'il y a un effet de recherche sur la lumière, Adrien Lucas.
Oui, absolument. Donc, en fait, le dispositif est directement issu d'une observation. Donc, à la fin de, imaginez-vous à la fin d'une journée, le soleil, le temps est clair, il n'y a pas de nuages, et le soleil vient de disparaître sous l'horizon. Le ciel au zénith est encore bleu, et à l'horizon, il y a une lumière orangée qui apparaît. Et dans ces conditions-là, imaginez-vous que vous choisissez un point à l'horizon et que vous tracez une ligne jusqu'au zénith. Sur cette ligne, vous aurez une séquence de lumière colorée que j'ai finalement matérialisée ici avec des diodes électroluminescentes qui est le médium que j'ai utilisé pour faire cette pièce.
Plusieurs milliers de LED qui vous ont servi à créer cette lumière évanescente.
Oui, alors ça produit c'est un objet qui contient ces sources de lumière, qui les diffuse dans l'espace, et l'objet qui est linéaire, qui mesure 3 mètres de long, se trouve près d'un mur. Et donc il projette sur ce mur cette image, cette séquence dont je parlais. Et il projette dans le mur d'en face, donc le mur, un mur qui est à côté, en face du dispositif, une lumière tout à fait blanche, qui en fait correspond à cette lumière qui apparaît à cette heure du jour. Alors pourquoi avoir fait ça? C'est pas uniquement une histoire de... C'est pas véritablement décoratif, c'est vraiment une réflexion sur la structure de la lumière. C'est-à-dire que j'ai remarqué en fait qu'à cette heure-là, la lumière créait des effets de coloration sur les modelés, notamment sur le corps humain. En fait, juste après la disparition du soleil, il y a une lumière très particulière, et ça correspond pas du tout à ce que dans le monde de l'éclairage on appelle la lumière du jour. Parce que si vous achetez une lampe lumière du jour, elle a qu'une seule couleur, qui est très blanche, qui produit certes de très belles couleurs lorsque l'on éclaire avec, mais qui n'a pas du tout la même structure que la lumière naturelle.
Là, c'est toute la complexité du spectre de cette heure que donne la lumière. Alors, peut-être c'est un paysage... ça me ramène à Rome, cette lumière.
Alors c'est amusant parce que j'ai créé la première des lampes ciel à un retour d'une résidence que j'ai faite à Rome pendant 6 mois, où j'avais notamment travaillé sur la lumière du ciel de Rome. Et j'ai des instruments de mesure de la lumière. En fait, j'ai tout un laboratoire dans lequel je travaille à la fois la lumière et la peinture. Et j'étais parti justement à Rome pour faire des mesures du ciel.
Voilà, et on ne se trompe pas de destination. C'est une très très belle œuvre qui est en face d'une autre très belle œuvre qui est très simple aussi. On est devant une sphère noire. C'est une œuvre de Raymond de Lepierre et que nous allons avoir dans un instant. Merci beaucoup, Adrien Lucas.
Mais de rien, avec plaisir.
Bon, Raymond de Lepierre s'est absenté un instant, on retrouvera tout à l'heure, mais j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Jean Giloux qui propose une grande traversée à la fois historique et esthétique et géographique du Japon. Quel est le sens de cette œuvre, Pierre-Jean Giloux?
Alors en fait, pour la présenter rapidement, je dirais que ça c'est la quatrième partie d'une tétralogie qui se nomme Invisible Cities. Cette partie-là se nomme Station, et en fait elle débute à Osaka, elle traverse une reconstitution de la foire mondiale qui s'est passée en 1970 à Osaka, à l'exposition universelle plutôt, et puis de là on vers Kyoto et le lac Biwa, qui est à côté du lieu où se sont signés le protocole de Kyoto.
Protocole de Kyoto qui concerne les problématiques d'environnement.
Absolument, absolument. Donc, pour parler de ça, souligner le fait que ces accords, en fait, n'ont jamais été respectés. En fait, avec un ami architecte, Manuel Tardis, nous avons fait la proposition d'une ville virtuelle basée sur le lac lui-même et qui a pour fonction et fonctionnalité d'être essentiellement alimenté par l'hydraulique, l'éolien et le solaire, en fait.
Alors ça crée de très très belles images qui sont difficiles à décrire, mais dans des tons très très bleutés. Comment peut-on définir les images que vous avez créées? Comment vous les avez créées d'ailleurs, ces sortes de monuments, ces mobiles? Tout est mobile.
Alors en fait, c'est des espèces d'îlots. En fait, ce sont des îlots flottants qui sont raccordés les uns aux autres par des navettes fluviales. Où les gens peuvent évidemment circuler et se rendre sur les rives. Cette ville est autonome, absolument autonome, en énergie, et l'environnement est complètement naturel puisqu'on est sur un lac.
Ah oui, on est vraiment sur un lac, on est en pleine immersion, c'est vraiment le cas de le dire.
Exactement. C'est le lac Biwa est la plus grande réserve naturelle d'eau du Japon, en fait.
Et donc là, vous donnez aussi, avant d'avoir accès à cette ville imaginaire, utopique, c'est une utopie anthropocénique.
C'est une utopie qui fait référence à une autre utopie qui s'appelle l'utopie métaboliste. Et ça, on le voit pas dans ce film-là, on le voit dans l'exposition universelle de 70, mais dans les autres films, on les voit puisqu'ils ont implanté des bâtiments à Tokyo surtout. Et en fait, c'est tout le travail sur Global City, c'est justement de remettre dans la réalité contemporaine, en fait, des projets qui ont été esquissés dans les années 60 et 70 et qui n'ont jamais été réalisés, en fait. Et en fait, je voulais faire un dernier hommage à ces gens qui avaient pensé des formes complètement nouvelles d'habitation et qui, malheureusement, n'ont pas été vraiment suivis dans les faits.
Ça fait une très belle œuvre, un très très beau voyage. C'est à la fois aussi une rêverie sur la ville, une rêverie sur la montagne au Japon, une rêverie sur l'eau. Il y a toute une méditation dans ce projet.
Tout à fait, sur les paysages. Alors que ce soit des paysages urbains comme celui qu'on vient de voir, ça c'est Osaka, ou des paysages, dès qu'on prend la direction de Kyoto, évidemment, on va dans les montagnes et tout. Moi, j'aime autant les uns que les autres. En fait, ça a des qualités évidemment intrinsèques. Et moi, je suis très attiré par les villes et aussi leur situation géographique, qui est la région du Kansai, qui est une région absolument magnifique.
Une région pleine nature.
Pleine nature.
Oui. Donc ce voyage dure une vingtaine de minutes et c'est un enchantement, une découverte de ce qu'est une rêverie sur le Japon peut-être.
Oui, on peut pas dire autre chose. C'est essayer de rendre un peu merveilleux les choses, en tout cas leur donner une espèce de beauté et d'essayer de la montrer, même si elle est urbaine et des fois excessivement dense. Et...
Oui, mais c'est là qu'on retrouve un peu le mythe de Prométhée qu'on évoquait tout à l'heure avec Stéphanie Pécourt et Emmanuel Cuisinier.
Tout à fait.
Un très grand merci, Pierre-Jean Gilloux, pour cette balade en images et en création.
Merci beaucoup.
sommes maintenant avec Charlotte Charbonnel qui propose deux œuvres qui s'intitulent
L'arme de la terre et l'arme de la terre fugue, entre parenthèses.
Qu'est-ce que c'est que cette arme de la terre ?
Alors, l'arme comme les larmes, il y a un jeu de mots là-dessus, effectivement, et c'est un terme auvergnat pour désigner en fait la lave. C'est un travail que j'ai mené au Creux de l'Enfer, centre d'art contemporain qui se trouve à Thiers, en Auvergne.
En Auvergne, dans le Puy de Dôme.
Exactement. Et donc, sur l'invitation de Sophie Auger Grappin, qui est la directrice, j'ai voulu travailler sur le volcanisme. Je me suis rapprochée d'un laboratoire qui s'appelle Magma et Volcan, qui se trouve à Clermont-Ferrand. Et donc, les deux vidéos qu'on a ici, qui se répondent, celle sur l'écran principal, le son que nous entendons, c'est une création sonore d'André Fèvre, qui est un bruiteur et acousticien. Et donc les images sont à la fois prélevées de ce laboratoire où j'ai détourné des expériences menées sur place, dont une qui consiste à reproduire un tsunami. Et le tsunami permet en fait d'étudier les écoulements pyroclastiques qui sont liés au volcanisme. Et donc moi j'ai filmé des moments en fait de cette expérience, qui est très brève, en utilisant leurs caméras, qui sont des caméras à haute fréquence, haute vitesse, et en mélangeant avec d'autres images que moi j'avais prélevées, que j'avais réalisées dans des voyages. Je suis moi-même une férue de volcans, donc j'ai pu aussi avoir beaucoup de matière qui était liée à ça. Et l'idée, c'était d'avoir l'impression d'être à l'intérieur d'un volcan, un petit peu à la Jules Verne, avec le centre de la Terre. Donc des images complètement fantasmées, ou en tout cas détournées de ce qu'elles sont réellement. Là, on voit par exemple, ce sont des microbilles de verre qui servent à l'expérience, et ça devient une sorte de fluide, de flux. On ne sait pas si c'est de l'eau, du sable. Donc c'était vraiment ce changement d'échelle, voilà, comme si c'était des images un peu prélevées d'une autre planète.
Alors en effet, on est devant encore une autre rêverie, c'est la rêverie de minéral ou bien du brouillard, de la brume, de l'eau. Enfin, on est dans la fluidité totale, mais aussi dans la matière, dans le magma.
Absolument, c'était tout à fait l'idée, c'était vraiment de sentir ce bouillonnement, en tout cas d'essayer de travailler cette matérialité-là, qui est impossible. Il y a quelques viscomètres qui permettent de prendre effectivement la viscosité de la lave, mais sinon, évidemment, qu'on ne peut pas aller dans l'intérieur d'un volcan, donc c'était tout l'idée du projet. Et la vidéo qu'on a en face joue vraiment comme le reflet. C'est un scope, donc c'est un spectrogramme de la vidéo elle-même. Donc il y avait cette idée, en fait, quand on réalise un film, on étalonne. Et donc on a des visualiseurs, des scopes, ce qu'on appelle, qui permettent en fait de venir étalonner et de venir homogénéiser par exemple la lumière. Donc cette sorte de spectrogramme en fait m'a beaucoup interpellée. C'était un peu une sorte de fantôme de la vidéo elle-même.
Oui, c'est comme si on voyait des poussières au microscope à 10 millions d'échelles. Hein, c'est un peu ça.
Ah bah c'est beau que vous voyez ça.
Non, ça, c'est, ouais. Alors c'est très beau parce que ça fait des plumes en mouvement. Ce sont des sinusoïdes qui sont produites par les mouvements
de
la lave.
C'est vraiment la vibration lumineuse de la vidéo, en fait, l'arme de la Terre. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'arme de la Terre fugue, parce qu'on est vraiment sur la sorte de spectre de la vidéo elle-même.
Formidable spectacle. Merci. Dans cette exposition. On est encore une fois bien dans le thème de Prométhée.
Absolument.
Merci Charlotte Charbonnel.
Merci.
Voilà, nous sommes maintenant en compagnie de Raymond Delepierre devant une œuvre qui nous dépasse de beaucoup, mais qui est la perfection même peut-être. C'est une sphère noire qui va du sol au plafond, parfaitement tendue. Et cette œuvre s'appelle
Swallowing Her Heart.
Voilà,
Swallowing,
le cœur battant. Qu'est-ce que signifie cette forme et qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Quel est le geste que vous avez voulu accomplir en créant cette sphère?
Alors, c'est une pièce que j'ai imaginée pour parler de la différence de perception. Alors, moi, je suis artiste sonore, je parle de son à l'intérieur de ça.
On l'entend un peu.
Quand même un peu, oui. Et donc, j'ai vraiment voulu qu'on puisse s'immerger dans un univers externe à cette œuvre, c'est-à-dire autour de la sphère. On entend ce qui se passe autour de nous et par résonance, on entend ce qui se passe dans la sphère. Mais aussi, quand on s'approche de la sphère, on peut la toucher. Et là, c'est un nouveau sens qui s'inscrit, c'est le sens vibratoire. Donc, on touche le son par la vibration. Voilà, donc c'est une œuvre quand même qui est destinée aux personnes aveugles, aux personnes malentendantes, aux personnes sourdes, vu que ça vibre.
Mais aux personnes qui n'ont pas tout ça et qui peuvent s'approcher, on va le faire ensemble, on va se rapprocher et on va trouver quelques sensations.
Alors là, tout à coup, on a des sons nouveaux qui s'inscrivent, qu'on n'a pas entendu, on était un peu en arrière. Hein. Là, on a une sorte de cosmos qui s'inscrit.
De grondement.
Oui, de grondement. Voilà, quelques vibrations, quelques parasites. Et alors, alors, je ne peux pas tout décrire comme ça parce que je ne sais pas ce qui va se passer après. Donc, j'ai placé dans le bâtiment du Centre des Arts, à l'extérieur, des microphones qui captent les sons de l'extérieur et qui déclenchent des nouveaux sons. Et donc, c'est le rythme urbain qui rythme les sons qui sont diffusés à l'intérieur de cette pièce.
Alors, c'est une sphère qui est composée d'une très, très belle matière, extrêmement douce, qui ne reflète rien. C'est tout noir, mais c'est d'une beauté simplissime.
Alors, c'est une matrice, hein. C'est la maternité, hein. Voilà, c'est un ventre, c'est plusieurs ventres, c'est le ventre de l'humanité peut-être, hein. C'est un peu prétentieux, hein, j'avoue, hein. Mais c'est pas moi qui le... Mais voilà, et donc c'est une matière, voilà, là, alors là on entend un petit son, c'est une matière qui doit se gonfler un tout petit peu pour garder une certaine tension, pour qu'il y ait une bonne diffusion sonore à l'intérieur. Donc ce que l'on entend dans le fond, ce brouillard de vent, c'est la soufflerie, mais c'est vrai, on devrait encore pouvoir se parler. Et donc c'est une membrane très très fine en PVC mat, et j'ai aussi voulu que ça soit un noir parce que ben, pour que le voyant puisse se mettre quelque part à la place, c'est symbolique, à la place d'une personne malvoyante ou aveugle. Mais aussi c'est tout un travail sur ce qu'on appelle la pierre obsidienne. C'est avant le miroir, on avait des pierres noires que l'on polissait pour se voir dedans. Et donc on a ce reflet aussi, et donc cette double impression et cette double inscription à l'intérieur de cette sphère.
On ne peut pas faire plus simple que une sphère, hein.
Rien.
C'est à la fois un grand rien et un grand tout, hein, ce cœur qui bat au rythme de la ville.
Oui, complètement. Alors, je tiens toujours à ce que, ça, comme vous le présentiez au début, ça tienne du sol au plafond. Donc, si j'ai un plafond qui se met à 3 mètres ou à 3 mètres 50, je refais une sphère pour que ça tienne toujours du sol au plafond. Les sons d'en bas rentrent dans la sphère, les sons d'en haut descendent dans la sphère. Voilà.
Très belle œuvre qui fait face d'ailleurs à cette très belle œuvre d'Adrien Lucas qu'on a eue à l'instant. Voilà, un très grand merci Raymond Delepierre et bravo pour cette remarquable créativité. Merci.
Voilà, nous sommes maintenant avec Philippe Sueur, monsieur le maire d'Enghien, premier vice-président du conseil départemental, et nous venons d'assister à la présentation de la saison 2022-2023 avec une petite rétrospective sur le passé. J'aimerais que vous puissiez nous donner quelques sentiments importants qui ont présidé à ces 20 années de création au Centre des Arts d'Enghien. Monsieur Philippe Sueur.
Évidemment, nous venons de fêter en quelque sorte le printemps du Centre des Arts. Hein? Demain, c'est l'automne, c'est vrai, mais le printemps du Centre des Arts, puisque ça fait 20 ans, nous avons voulu ce lieu comme un lieu de diffusion, comme un lieu de création, mais aussi de formation des publics, hein, de rapports les plus proches entre les artistes et le public. C'est extrêmement important, notamment quand on aborde la création en art contemporain, hein, il doit y avoir, hein, donc une sorte de fil conducteur, hein, qui permet de comprendre l'œuvre, d'adhérer. Par exemple, ce que nous avons aujourd'hui ouvert, hein, le vernissage de Prométhée, ça a besoin, comment dire, d'un accompagnement.
Hein, bien ah oui, Prométhée, le jour d'après, absolument, une exposition extraordinaire dont on a parlé longuement dans cette émission.
On en parle après. Donc c'était tout à fait naturel qu'on revienne sur ces 20 ans. 20 ans de complicité, 20 ans de succès, parce qu'il faut mesurer que ce petit centre des arts d'Enghien-les-Bains s'est tissé au plus haut niveau, hein, puisque nous avons été reconnus en raison du Centre des Arts, ville créative UNESCO, nous le sommes toujours, nous sommes leaders, hein, puisque Dominique, le directeur culturel de la ville, est le directeur du Centre des Arts, et le directeur du cluster qui réunit toutes les villes créatives art numérique de l'UNESCO.
Et pas les moindres.
Et donc pas les moindres, hein, bien entendu. Nous avons la fierté, hein, bien également, hein, d'avoir, hein, pu mettre en place, hein, d'importants festivals comme les bains numériques. Nous avons la chance d'avoir été labellisés par l'État, hein, et c'est le travail, hein, des années, hein, antérieures et des équipes. Nous sommes
de scène nationale.
Scène nationale, hein, scène nationale. Écriture numérique, il n'y en a pas beaucoup en France, hein, bien entendu. Donc de tout ceci, nous sommes très fiers. Hein, il est vrai que j'ai souvenir que quand j'ai voulu le Centre des Arts, j'étais quasiment tout seul. Mon équipe municipale de l'époque me dit « Oh là là, c'est la danseuse de Philippe, hein, bon, allez, on va le laisser, on l'aime bien. Hein, » bon, mais j'ai eu quand même beaucoup de résistance.
20 ans après, hein, vous avez un magnifique établissement.
C'est un bel établissement parce qu'il porte le nom d'Enghien, il le porte dans l'excellence. Hein. L'essentiel, c'est d'apporter quelque chose. Et je crois que dans le domaine que nous avions choisi, hein, donc l'image, la musique et la danse, avec la révélation, hein, des technologies nouvelles qui permet cette hybridation, hein, entre les arts, les sciences, hein, et évidemment les sciences appliquées, les nouvelles technologies, nous sommes arrivés à être un lieu reconnu, un lieu de diffusion, hein, et de formation, comme je le disais tout à l'heure. De tout ceci, je crois qu'on en est très fiers. Nous sommes évidemment une institution publique, hein, le Centre des Arts est communal, donc nous participons, j'ai cette conviction que si l'État et les collectivités ne sont pas mécènes, hein, nous n'arriverons pas, hein, à faire, hein, avancer l'art dans la liberté nécessaire. Il y a des excès, hein, il y a des excès. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein, bien entendu. Nous ne voulons pas rentrer non plus, hein, dans la fantaisie ou le fantasme, hein, le fantastique aussi, encore que nous le retrouvons, ce fantastique, hein, dans justement cet écosystème, c'est-à-dire d'une industrie qui est née de la technologie et de l'art, hein, qui sont les effets spéciaux. Hein. Le cinéma, il n'y a plus aujourd'hui un seul film. Sommes peut-être un film intimiste, hein, hein, qui ne sort pas d'une villa ou d'une pièce, hein, sans effets spéciaux, sans ce qu'on appelle la post-production.
Et c'est ce qu'on a vu ici avec le PIDS, qui marque, hein, chaque année, voilà,
le monde du cinéma. Tous les professionnels internationaux sont à Enghien. Nous avons une job fair qui offre plus de 500 emplois à nos jeunes qui sont en formation. Il faut penser quand même que vos auditeurs réalisent qu'il y a 100 000 emplois dans le cinéma et l'image en Île-de-France.
Formidable, et Enguin et partie prenante de cette...
Voilà, dans les technologies nouvelles, voilà. Et nous sommes en quelque sorte un peu mécènes, et on en est très fiers, c'est notre rôle.
C'est remarquable. Deux mots de cette exposition que nous venons de parcourir. Vous avez eu des mots extrêmement forts, puissants, sur l'humanisme qui se dégage, sur l'esthétique qui se dégage dans cette exposition qui s'appelle, je le rappelle, Prométhée, le jour d'après.
Oui, moi c'est une préoccupation que j'ai depuis longtemps. Il est vrai que par ce qui a été mon métier, qui est toujours mon âme, je suis professeur de droit, mais j'ai enseigné beaucoup l'histoire du droit. Je suis agrégé de droit romain, donc j'ai en quelque sorte une longue vision sur l'évolution des sociétés, les faits sociaux, et les transformations. Et en conséquence, quand nous sommes aujourd'hui dans un temps de fluidité, de liquéfaction en quelque sorte sociétale, nous voyons aussi des mutations sociologiques. Avant, il fallait un siècle, deux siècles parfois, trois même, nous avons connu. Or, nous avons aujourd'hui des mutations sociétales, sociologiques, en 10 ans, en 15 ans. Les mentalités ont une difficulté d'adaptation. Et aujourd'hui, il me semble extrêmement nécessaire que, sur tout ce qui est numérique, il y ait un encadrement. La science est absolument là, exponentielle. Elle nous produit des services nouveaux, des instruments nouveaux.
Vous avez parlé de liberté, mais vous voudriez donner aussi quelques limites.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que jusque maintenant, nous n'avions pas abordé le côté éthique. Voyez-vous, il y a maintenant 40 ans, on s'est intéressé à l'éthique médicale, à la bioéthique. Nous n'avions pas de démarche digitale éthique. Elle s'amorce. Mais il faut aller plus loin. Moi, je pense qu'il faut un humanisme du numérique. C'est-à-dire que c'est l'homme qui doit être servi par le numérique et non pas l'homme asservi par le numérique. Il faut qu'il conserve sa liberté. Prométhée, et c'est là, moi je trouve merveilleux d'accueillir cette exposition de nos artistes belges, d'art contemporain, ils sont 14 à la composer. C'est Prométhée, c'est une symbolique qui est celle de donner le feu à l'homme. Le feu, c'est la base de tout. S'il n'y avait pas eu le feu, il n'y aurait pas le fer, il n'y aurait pas eu d'âge de fer. Donc, et naturellement, donc tout ce qui est mécanique, tout ce qui a été technique, il repose sur le feu, sur la transformation. La chimie, c'est le feu. La métallurgie, c'est le feu.
Avec ses dangers, peut-être.
Avec, bien entendu, aussi ses dangers. Le feu, c'est la guerre, à outrance, Mais, en même temps, ça, qu'est-ce que ça révèle? Que l'homme, avant le feu, est tout nu. Il est dénudé.
Vulnérable.
Il est vulnérable, il est fragile. Et c'est en raison de cette fragilité, et pour franchir en quelque sorte cet espace, que l'homme a été constamment en évolution mentale et technicienne. C'est ça qui est magnifique. C'est que l'homme s'est remis en question en permanence. C'est la seule espèce animale qui se remet en question.
Eh bien, merci pour cette belle leçon de philosophie.
Voilà. Oui, l'essentiel, c'est la liberté. Et voilà pourquoi. Et s'il y a bien un vecteur de liberté, c'est l'art. L'artiste est un homme libre. Nous ne devons pas nous soumettre à la machine. Voilà, nous ne devons pas nous soumettre à la machine. La machine doit rester au service de l'homme. Je suis convaincu nous en tirerons le meilleur. Mais on peut, vous le savez aussi, les risques avec le transgénisme, avec tout. Il faut encadrer tout ça pour garder effectivement à l'homme ce qui est à l'origine, sa dignité, sa liberté.
Un très 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 grand merci, Philippe Sueur, pour ces propos philosophiques de longue du temps long, et merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission Entre chiens et loups. Rendez-vous à lundi à 18h. Merci à Francky qui aura réalisé cette émission. Et à très bientôt. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM.